Et dans une actualité où il est beaucoup question de grogne sociale, d'une France qui serait scindée en deux, je me suis dit qu'il était intéressant de faire entendre une voix qui n'est pas familière à nos auditeurs. Marguerite Bérard, bonjour. Vous êtes directrice des réseaux France du groupe BNP Paribas. Et vous êtes énarque. Vous avez été dans la promotion d'Emmanuel Macron, la promo au Saint-Gor. Vous avez fait partie de l'inspection des finances. Bref, vous incarner une certaine forme d'élitisme républicain et vous publiez un ouvrage intéressant justement sur l'histoire de votre famille et plus précisément de votre grand-père, le siècle d'Assia chez Flammarion. Il y a donc matière à parler de méritocratie et tout d'abord de parler de banque puisqu'il est beaucoup question de banque aujourd'hui. On incrimine les banques, on les considère comme étant responsables de l'aggravation de la fracture française. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes l'une des dirigeantes du groupe BNP Paribas.
Bonjour Guillaume Herner. Chez BNP Paribas, la division dont j'ai la responsabilité, en fait, c'est trois métiers. C'est la banque de détail. Ce sont nos 1850 agences qui sont partout en France. C'est la marque Hello Bank aussi. C'est la banque des entreprises qui va de la TPE à l'entreprise de taille intermédiaire. Et puis, c'est aussi la banque privée. Donc, ce sont en France trois métiers qui sont au service, en fait, de toutes nos clientèles. Vous avez dit que, effectivement, le mouvement que le pays a connu ces dernières semaines met en cause
les banques verbalement,
en fait j'ai envie de dire pas que moi ce que j'entends aussi c'est que il y a un questionnement sur le rapport que le pays peut avoir à vous avez dit élite. Je sais que ce soit le politique, que ce soit le journaliste,
bien
que
sûr,
ce soit
je m'exclus pas
celui
du mouvement.
Celui qui représente, il y a un questionnement sur cette relation que la société entretient à celles et ceux qui les représentent. C'est aussi pour ça que je trouve que le débat national qui est en cours est aussi intéressant.
Alors, il y a aujourd'hui quelque chose de très concret que les maires ruraux demandent aux banquiers, donc notamment à BNP Paribas que vous représentez, ce sont les distributeurs automatiques. Et effectivement, moi je connais des petits villages qui aimeraient bien avoir un distributeur automatique. Pourquoi est-ce si compliqué pour les maires de communes rurales d'obtenir un DAB?
Alors, les distributeurs automatiques de billets, les DAB dont vous parlez, c'est effectivement un service très important que nous rendons à la population, même si, bien sûr, il y a de moins en moins de cash, hein, les échanges sont de moins en moins en liquide dans notre économie, mais néanmoins toujours là et toujours nécessaire. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans certains pays, en fait, les banques ont su parfois mettre en commun leur réseau de distributeurs automatiques de billets parce que c'est une filière qui est assez coûteuse, y compris pour des raisons de sécurité. Il faut faire bien sûr attention à la sécurité des transporteurs de fonds. Il faut s'assurer que vous pouvez arrêter le véhicule pile au bon endroit pour minimiser encore une fois les risques du transport de fonds. Il y a beaucoup de maintenance associée à ces distributeurs et donc dans certains pays, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Turquie, c'est le cas dans beaucoup de pays, il y a des banques qui mutualisent, qui mettent en commun leurs distributeurs. En fait, les distributeurs sont neutres. Donc, et puis, vous mettez votre carte et on dit bonjour client BNP Paribas ou on dit bonjour client X. Et en fait, les banques ont mis en commun leurs distributeurs. Ça peut faire partie de solutions pour faire en sorte que ce service qui est rendu à la population, ce service de proximité, on le couvre de mieux en mieux partout sur le territoire.
Et puis, toujours au travers de ce mouvement social, Marguerite Bérard, il y a la crainte qu'un certain nombre de métiers soient bouleversés par le numérique. C'est déjà le cas d'ailleurs. Ça veut dire que on a l'impression que les banques de détail sont de plus en plus concurrencées par des banques qui sont uniquement sur Internet. Est-ce que vous pensez qu'il va être possible à ces réseaux bancaires de préserver l'emploi? Comment vous comptez vous y prendre, vous, à BNP Paribas?
Alors, c'est une transformation non seulement qui est en cours, mais qui est déjà largement menée. On est des entreprises de technologie et de services. Si je prends BNP Paribas, on est très fiers, pardon, d'avoir reçu de l'agence D-Rating, qui est l'agence un peu de notation de la qualité du digital, ben pour notre application sur nos comptes, qui s'appelle Mes Comptes, que vous avez sur votre téléphone, la reconnaissance d'être la banque qui offre le plus de fonctionnalités à ses clients. Aujourd'hui, les usages de nos clients, ils ont beaucoup changé. Par exemple, on a donné la possibilité à nos clients de changer eux-mêmes leur plafond de carte en autonomie avec leur application. Aujourd'hui, plus de 75% de mes changements de plafond de carte, ils sont faits en autonomie par les clients. Vous offrez un usage à vos clients.
Ça veut dire que les clients font de plus en plus le travail de ceux qui étaient les salariés jadis de la banque, Marguerite Bérard.
Mais vous parliez des DAB tout à l'heure. Quand on a installé pour la première fois des distributeurs automatiques de billets, des GAB, il y a eu cette question aussi de mais qu'est-ce qui va se passer, le guichet bancaire, les gens vont plus rentrer dans l'agence, etc. Je veux dire, chaque évolution apporte des questions. Nous, notre mission, c'est de servir nos clients, de leur apporter des usages qui leur simplifient la vie. Et il y a toujours autant besoin de nos conseillers auprès de nos clients, que ce soit pour être auprès d'eux dans les moments plus difficiles, ou surtout aussi lorsque ils ont des questions plus compliquées, lorsqu'ils ont besoin de conseils, lorsqu'ils ont des projets, que ce soit quand on est particulier et qu'on pense à un achat immobilier, quand on est entrepreneur et qu'on souhaite développer son entreprise, nos conseillers sont là pour ça. Les usages évoluent, mais le besoin d'humain dans la banque, il est toujours là, toujours extrêmement présent.
La colère vis-à-vis des banques, elle provient aussi du fait qu'il y a un certain nombre de Français qui ont du mal à finir leur mois, alors que, par exemple, BNP Paribas est une entreprise extrêmement florissante. Je lis 7,5 milliards d'euros de bénéfices en 2018. Pourquoi n'est-il pas possible d'assouplir les conditions d'accès au crédit, les conditions d'autorisation de découvert pour un grand nombre de Français, Marguerite Bérard?
Nous sommes une belle entreprise, nous sommes une entreprise qui va bien, nous sommes fiers, vous avez parlé de nos résultats, nous sommes fiers de ces résultats, nous sommes fiers d'être parmi les entreprises qui payons le plus d'impôts en France, nous sommes fiers de payer d'ailleurs plus d'impôts que de dividendes à nos actionnaires, ce sont aussi ces chiffres-là qu'il faut rappeler. S'agissant du crédit, moi je vais vous donner les chiffres de mon réseau bancaire. L'année dernière, en 2018, nos encours de crédit, ils ont progressé de 5,4%. Dans une économie dont la croissance était plutôt autour de 1,5%.
Ça veut dire que vous avez plus fait crédit.
Et pour les TPE-PME, qui sont, il y a 600 000 entreprises qui se créent en France chaque année, et les TPE-PME sont parmi nos tout premiers clients, la progression de nos encours de crédit pour les TPE-PME, c'était 13% l'an dernier. Donc je crois qu'on fait notre job, notre métier, c'est le métier dont on est fier, celui de financer toutes nos clientèles, et notamment nos clientèles entreprises.
Vous surveillez les comptes des Français, puisque vous avez des Français qui déposent leur argent à la banque, à BNP Paribas, dont vous dirigez le réseau de détail, Marguerite Bérard. Est-ce que vous constatez effectivement un appauvrissement d'un certain nombre de nos compatriotes ?
On est, chez BNP Paribas, attentif à toutes nos clientèles. C'est la raison pour laquelle cette année, on a été d'abord attentif, et c'est vrai pour toutes nos clientèles, à ne pas augmenter nos tarifs. C'est la raison pour laquelle nous avons également souhaité développer une offre spécifique pour nos clientèles fragiles. C'est d'une part ce qu'on appelle l'offre forfait de compte, qui est gratuite et qui permet de plafonner à 20 euros par mois les incidents, lorsque le compte fonctionne en incident, de limiter la charge pour le client de 100 euros par an maximum. C'est aussi une offre que nous apportons à l'ensemble de nos clientèles fragiles. Pour BNP Paribas, ça représente à peu près 200 000 personnes, là encore, qui plafonnent chaque mois les frais liés aux incidents. Et puis aussi dans le groupe, on a une entreprise dont j'ai pas la responsabilité, mais dont on est très fier, qui s'appelle Compte Nickel, et qui, vous savez, la banque que vous avez chez votre buraliste, et donc ça, c'est le groupe BNP Paribas.
C'est
aussi
la possibilité, en fait, c'est
plus d'un million de clients et c'est pour 20 euros par an un compte en banque très simple et qui est aussi une offre, je crois, qui convient bien à nos clientèles peut-être plus fragiles, mais pas qu'à celles-ci.
Dernière chose sur votre métier de banquière, Marguerite Bérard. Le livret A rapporte de moins en moins. En fait, il permet même aux Français, malheureusement, de perdre de l'argent puisque sa rémunération est inférieure à l'inflation. Est-ce que ça signifie que les ménages les plus modestes aujourd'hui sont condamnés à s'appauvrir s'ils mettent leur argent à la banque?
Alors, le livret A, dont je vous rappelle que le taux est réglementé, c'est pas la banque qui fixe le taux du livret A, ce sont les pouvoirs publics, le taux du livret A c'est 0,75%, reste un placement que les Français aiment beaucoup, on l'a vu par encore l'abondance de la collecte l'année dernière. Je crois qu'ils l'aiment beaucoup pour des raisons fiscales aussi, c'est un placement exonéré d'impôts, c'est un placement qui est une épargne immédiatement disponible et qui permet aux uns et aux autres de se constituer une épargne de précaution immédiatement disponible, exonérée d'impôts. Après, vous avez raison, on est dans un environnement de taux particulier maintenant depuis plusieurs années. Hein. L'État français à 10 ans emprunte à moins de 1%. Et quand moi, je mets de l'argent pour le soir à la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale me taxe 0,40%. Donc on est dans un environnement de taux négatif, ce qui est quelque chose d'assez atypique.
Marguerite Bérard, indépendamment de votre métier de banquière, vous publiez un ouvrage, Le siècle d'Assia, qui raconte l'histoire de votre grand-père, une histoire qui vient de loin, et puisque, comme vous allez nous le dire en quelques mots, votre grand-père n'était pas a priori un représentant de l'élite, c'était quelqu'un qui a été immigré en France. Dans quelles conditions, dites-nous, qui était votre grand-père, Marguerite Bérard?
Alors, mon grand-père, qu'on appelait Assia, qui, quand il est arrivé en France, a pris le nom d'Emmanuel, Emmanuel Genstein. Mon grand-père est né en 1903 à Rovno. C'est une ville qui est aujourd'hui en Ukraine, mais à l'époque, ça faisait partie de l'Empire russe. Il est né dans une famille russe juive. J'ai appelé le livre Le siècle d'Assia parce que il a vécu presque 100 ans. C'était une force de la nature, quelqu'un de très très impressionnant. Et à travers une vie qui a été une vie simple, hein, il a en fait connu de manière assez directe tous les événements assez dramatiques du XXe siècle, puisqu'il a quitté la Russie à l'âge de 17 ans. Tout seul, c'était en 1920, mais Rovno, qui avait connu la Première Guerre mondiale, l'arrivée des Allemands, qui avait connu la révolution russe, les Soviétiques, puis les armées blanches, puis les Ukrainiens et les indépendantistes ukrainiens, puis les Polonais, ça faisait beaucoup d'un coup sur ce territoire assez meurtri. Donc il part de Russie en 1920, il va d'abord à Vienne. Ensuite il va passer les années 20 en Palestine et il arrivera en France en 1928 et là encore beaucoup d'aventures dans cette vie.
Vous rappelez justement, Marguerite Bérard, dans ce récit, un certain nombre de faits qui ont constitué l'histoire de l'Europe de l'Est, par exemple l'affaire Bélis en 1911, dites-nous un peu de quoi il s'agissait et pourquoi cette affaire a à ce point marqué les mémoires européennes à cette époque.
Alors, l'affaire Bélis, effectivement, c'est une affaire qui se passe en 1911 à Kiev, à peu près 300 kilomètres de Rovno, et qui a beaucoup marqué l'enfance de mon grand-père, qui à l'époque avait 8 ans, mais c'est ce dont on parlait à l'école et dans les rues de Rovno. Cette affaire, elle a certaines similitudes avec ce que nous avons connu en France 20 ans auparavant avec l'affaire Dreyfus. Bélis, c'est quelqu'un qui est un comptable dans une fabrique de briques, dans une usine de briques à Kiev, et qui va être accusé, parce qu'on retrouve un petit garçon qui a été assassiné, c'est Bélis qui va être accusé à tort de l'avoir tué. Et Bélis est juif et on l'accuse d'avoir assassiné ce petit garçon parce qu'on est à la veille de la Pâque juive et que on l'accuse d'avoir commis un sacrifice humain pour utiliser le sang de ce petit garçon pour faire des matzot à la veille de la Pâque juive. Et donc c'est une histoire absolument incroyable. Bayliss sera acquitté en 1913, mais c'est une affaire qui va secouer beaucoup cette partie de la Russie et de l'Europe, qui mobilisera aussi des intellectuels et qui montre tous les ressorts de ce que sont les complots, les rumeurs. Bayliss est un homme assez simple aussi, un peu comme Dreyfus, il va être un peu dépassé par cette affaire, hein. Son cas va être très largement repris. C'est une affaire qui marque aussi cette période de pogrom dans cette partie-là de l'Europe et de la Russie.
Et alors, donc, quelques années après cette affaire Bayliss, quelques années après 1911, Marguerite Béra, votre grand-père choisit la France. Pourquoi arrive-t-il en France? Pourquoi ce périple? Et qu'est-ce qui fait à l'époque que ces immigrés choisissent la France?
Alors, mon grand-père, donc qui à l'époque en fait est en Palestine, je dis Palestine parce que c'est à l'époque la Palestine sous mandat britannique, on est en 1928, décide de venir en France parce qu'il a quatre amis de son lycée de Rovno qui font leurs études de médecine en France, qui lui disent que la France et Paris c'est formidable et qu'ils l'invitent à le rejoindre. Eux-mêmes, ces quatre amis, ils sont venus en France parce qu'ils vivaient dans cette partie de la Russie désormais occupée par la Pologne et que la France des années 20 avait mis dans les universités de ces territoires des petites affiches invitant les étudiants qui faisaient leurs études en Pologne et en Russie à venir rejoindre la France qui avait été décimée par la guerre de 14 et qui faisait venir des hommes jeunes pour, dans ce cas, par exemple, être médecin. Donc ces quatre amis invitent mon grand-père à le rejoindre en France.
Comment se passe justement l'installation en France? À l'époque, quel est l'accueil réservé aux immigrés, Marguerite Béra?
Alors, au début, pour mon grand-père, comme pour ses camarades d'ailleurs, c'est très difficile. Il parle pas le français, il a pas d'argent, il va apprendre le français. Il le parlera et le lira bien, mais il saura jamais l'écrire. C'est quelque chose que j'ai découvert d'ailleurs après sa mort. Je savais pas qu'il écrivait pas le français. C'était un secret de famille.
Qui recopiait les cartes de visite.
En fait, il recopiait les cartes de vœux. La seule chose que j'ai jamais vue écrite par mon grand-père, ce sont des cartes de vœux, et j'ai découvert que d'abord sa femme, puis après la mort de sa femme, ses filles lui faisaient le modèle de ces cartes de vœux, parce qu'il n'écrivait pas en français. Et donc l'arrivée en France à cette époque est difficile. Mon grand-père va essayer de faire des études, parce qu'il a très envie de poursuivre le métier d'architecte qu'il a commencé à apprendre en Palestine. Il s'inscrit en auditeur libre aux arts et métiers. Il va avoir du mal parce qu'il n'a pas de quoi financer ses études, donc il va faire un autre travail. Il va devenir artisan dans un petit atelier à Belleville qui fabrique des bracelets-montres. Et comme en fait ça se passe bien, il travaille bien, son patron, c'est un artisan qui a quatre ouvriers dans ce petit atelier, lorsqu'il va prendre sa retraite, va proposer à mon grand-père de prendre sa succession. Et donc c'est le métier que fera mon grand-père toute sa vie, il fabriquera des bracelets-montres en cuir.
L'histoire que vous racontez dans Le Siècle d'Assia est à certains égards une histoire lointaine, et puis à d'autres égards une histoire qui peut produire des résonances par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, au tumulte à l'Est, à la résurgence de l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça vous suggère, Marguerite Béra?
Je pense que ce que montre l'histoire de mon grand-père, et c'est un petit peu pour ça que j'ai eu envie à la fois de l'écrire et puis de la partager, c'est que l'histoire est importante, elle nous apprend des choses. La transmission est importante. L'histoire avec un grand H, elle connaît parfois des cycles. Elle n'est pas linéaire, c'est pas une histoire de progrès. Parfois, il y a des périodes de Moyen-Âge qui ressurgissent, et parfois des ressorts. C'est ce qu'on se disait avec l'affaire Bayliss, quand on voit ces théories du de complots absurdes qui ressurgissent. Mais vous savez, parfois, quand on lit certaines choses sur certains sites internet, on se dit aussi qu'il y a des choses absolument dingues qui peuvent être écrites. Et donc, l'histoire nous apprend ça, quelles que soient les formes que ça prend.
Et alors, quand vous racontez votre histoire, donc je l'ai dit, on a donc d'un côté votre grand-père qui n'écrivait pas le français, mais il parlait d'autres langues, il était plutôt polyglotte. Vous, qui avez été major de l'ENA, comment vous vivez ça? Je sais que le terme d'élitisme ne vous plaît pas tellement, parce que peut-être vous êtes modeste, peut-être aussi. Vous dites que c'est un terme difficile à employer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Marguerite Béra?
Dans la vie de mon grand-père, ce qui était très important, il savait que c'était dur pour lui, mais il y avait quelque chose qui pour lui n'avait pas de prix, c'était l'éducation. Et il était très... Je crois qu'il était prêt à tout pour que, si c'était dur pour lui, ce soit meilleur pour ses enfants et ses petits-enfants. Et il avait très envie, c'était très important pour lui que ses enfants, au cas particulier ses deux filles, puisque c'était des filles, fassent des études, puissent être indépendantes. C'est ce qu'elles ont pu faire. Il était prêt à beaucoup pour ça. Et mon grand-père, que j'ai bien connu, nous disait la même chose à nous, ses petits-enfants, que finalement l'éducation, elle est la clé de tout. Elle est la clé de tout dans une vie. C'est elle aussi qui permet de recommencer. Quand je parle d'éducation, je parle pas d'éducation académique, je parle pas de formation initiale. C'est beaucoup trop réducteur. Aujourd'hui, tout change extrêmement vite. L'éducation, c'est se former en permanence, c'est continuer à apprendre. C'est ce que je fais. C'est ce que je pense très important aussi pour mes équipes en tant que dirigeant d'entreprise.
Effectivement, vous parlez de l'éducation des femmes, c'était à l'époque quelque chose de peu courant lorsque on voyait une forme de vision égalitaire entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, les choses ont évidemment progressé, peut-être pas
jamais
assez vite.
Assez.
Justement, vous qui êtes dirigeante aujourd'hui d'une banque BNP Paribas, est-ce que vous considérez que la situation est perfectible? Enfin, comment jugez-vous le fait d'être une femme dirigeante, Marguerite Béra?
Écoutez, nous, BNP Paribas, on a publié récemment, comme beaucoup d'entreprises, notre indice d'égalité entre les hommes et les femmes. On est à 87 sur 100. C'est pas assez. On voudrait être à 100. On voudrait être à 100. Donc c'est quelque chose sur lequel on a continue à beaucoup travailler. Moi, je suis dans ma division qui est la banque de détail. On est par exemple, on est une entreprise d'abord féminine. J'ai une majorité de femmes parmi les 27 000 collaborateurs que compte la banque de détail en France. On a une équipe de direction de cette banque de détail en France qui est à parité homme-femme. Après, parmi nos 160 patrons de territoire, je n'ai encore qu'un tiers de femmes. Et donc, on va faire mieux, on va continuer à faire mieux. C'est très important pour nous.
Mais est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'est toujours difficile pour vous, Marguerite Bérard, d'être une femme dirigeante?
Je pense que c'est une attention que nous devons avoir de tous les instants. Par exemple, lorsqu'il y a un poste de responsabilité à pourvoir, moi je demande systématiquement à avoir un CV masculin et un CV féminin. Il faut que ce soit des réflexes que nous ayons de se dire on a autant de femmes que d'hommes. Si je prends mon entreprise, mon détail en France, j'ai même un peu plus de femmes que d'hommes. Je dois pouvoir normalement, pour tous les postes de l'entreprise, avoir une candidature féminine et une candidature masculine. Parfois, il y a des questions aussi très très pratiques qui se posent. Nous, on est un réseau national, nos équipes, elles peuvent travailler partout en France. Parfois, il faut trouver des solutions qui sont pratiques aussi aux questions, par exemple, de mobilité géographique. Ça reste moins simple pour une femme qui a sa famille, de faire déménager sa famille pour raisons professionnelles. Donc, il faut qu'on trouve à chaque fois des solutions assez pragmatiques sur ces sujets qui sont encore des freins pour les carrières féminines.
Marguerite Bérard, Le siècle d'Assia, l'histoire de votre grand-père que vous publiez donc chez Flammarion. Je vous présente un homme et deux femmes qui viennent poursuivre l'émission.
Aurélien, en fait, on est plus nombreuses que vous aujourd'hui, oui, dans le studio. Hein.
Oui, Vous êtes effectivement majoritaire. Aurélien Bélanger à côté de vous et en face de vous, Eugénie Bastier, notre camarade du Figaro, et Mathilde Serrel. Bonjour à tous les trois.